Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème 20 façons de retrouver le temps et l'envie de créer. Je m'appelle Gisèle du blog Gigi Hook. Gigi comme diminutif de Gisèle et Hook en anglais ça veut dire crochet. C'est par le crochet que j'ai commencé à bloguer en 2010. À partir de 2012, j'ai créé mes premiers challenges créatifs. Il s'agissait du Granny Love Challenge, un challenge de crochet uniquement. Et aussi le challenge Art Journal et Gribouillage qui à cette époque était hébergé uniquement sur mon blog. J'ai toujours été intéressée par les arts plastiques et le dessin, mais avant 2012, je n'osais pas vraiment m'exprimer dans cette discipline parce que je n'ai jamais fait d'études de dessin ou d'art plastique et donc je pensais vraiment que c'était totalement impossible pour moi de faire quoi que ce soit sans avoir fait d'études dans le domaine. Mais à partir de 2012, l'envie était vraiment beaucoup trop forte, donc j'ai décidé de me lancer, d'apprendre à dessiner toute seule et de me lancer comme ça dans mon chemin créatif. Donc à côté de ça, je faisais toujours du crochet. D'ailleurs, mon tout premier livre de crochet a été publié en 2015 aux éditions Créa Passion. Et il s'agissait du livre Bonnet facile et amusant en crochet. Donc à côté de ça, toujours dans mes recherches artistiques, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin. Et j'ai fait une première année de licence d'art plastique à la Sorbonne par le CNED. Donc c'était des cours à distance et j'ai passé mes examens en fin d'année que j'ai réussi. Et j'étais vraiment contente de ce challenge que je m'étais lancé. Et là, plus récemment, cette année, j'ai décidé de passer une certification pour devenir enseignante certifiée de Zentangle. Le Zentangle est une méthode de dessin relaxante et amusante que j'ai découvert il y a quelques années. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. Donc là, en 2017, j'ai décidé de devenir enseignante certifiée de Zentangle. Et pour cela, je suis allée aux États-Unis pour passer ma certification. À côté de tout ça, j'ai également eu un travail à temps complet depuis 2012 dans une association européenne, un travail qui m'a beaucoup plu, qui m'a permis de beaucoup voyager et d'apprendre plein de choses. Mais par contre, j'ai décidé récemment d'arrêter ce travail-là pour me consacrer vraiment à 100% à mes activités créatives. Et à côté de tout cela, j'ai également 3 enfants. En bas âge, donc la plus grande à 7 ans, ensuite mon fils à 3 ans et la toute dernière à 4 mois. Je vous dis tout cela parce que je suis pour le coup vraiment confrontée à ce souci récurrent. Comment trouver le temps quand on a un planning vraiment très chargé? Comment trouver le temps pour créer? Et aussi comment garder cette envie et avoir régulièrement envie de créer? Donc dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 20 astuces que j'applique régulièrement dans ma propre vie depuis plusieurs années et qui m'ont permis vraiment d'aller au bout de chacun de mes projets créatifs. Donc la toute première astuce, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi avez-vous envie de créer? Qu'est-ce que cela vous apporte au quotidien? Est-ce que la finalité, par exemple, c'est de vous sentir zen, plus relaxé au quotidien, plus détendu, de prendre du temps pour vous? Ou est-ce que votre but à long terme, ce serait de commercialiser vos créations, par exemple, faire de l'art, vendre vos tableaux? Ou est-ce que vous voulez vraiment arriver avec tout cela? Par exemple, quand j'ai commencé à dessiner et à faire de l'art journal, c'est parce que je ressentais vraiment ce besoin en moi de prendre du temps pour moi et de nourrir ma fibre créative. Surtout avec les enfants, la vie de famille, parfois on se perd un petit peu. Et c'était vraiment très très important pour moi d'avoir cette bulle au quotidien dans laquelle je pouvais me réfugier quelques minutes par jour et tout oublier pour vraiment m'exprimer à fond. Et à côté de ça, pourquoi pas aller plus loin si ça me plaisait. Et ensuite, mes objectifs ont évolué au fil du temps. J'ai eu envie d'être plus active sur mon blog, de proposer des tutoriels, de partager mes découvertes. Et plus tard encore, j'ai eu envie de partager tout mon savoir-faire par des ateliers en ligne. Et c'est ce que je fais actuellement et qui m'apporte énormément de choses. Donc demandez-vous, pourquoi est-ce que vous avez cette envie de créer? Qu'est-ce que ça vous apporte? Une fois que vous saurez exactement pourquoi vous faites ce que vous faites, ça sera beaucoup plus facile au quotidien de dégager du temps et de trouver du temps pour vous parce que vous saurez pourquoi c'est important et pourquoi il faut que vous le fassiez et comment vous vous sentirez si vous ne le faites pas. Donc vous savez exactement pourquoi vous faites ce que vous faites, vous avez des objectifs très clairs et spécifiques et à partir de là, vous pouvez commencer à vous demander quelle action concrète vous devriez faire chaque jour pour y arriver, pour atteindre cet objectif. Donc par exemple, si vous souhaitez participer à une exposition l'année prochaine, mais vous avez du mal à trouver le temps, vous pensez que vous n'y arriverez pas, essayez de calculer en vous disant que par exemple, vous pourriez essayer de faire 2 créations par mois. Ça fait 1 création toutes les 2 semaines. Donc en calculant, ça ferait 52 semaines divisées par 2, vous en arriveriez à 26 créations que vous pourriez faire pour faire justement cette belle exposition dont vous rêvez depuis si longtemps. Donc l'astuce suivante, c'est de mettre en place une routine par rapport à ce que vous avez décidé, par rapport à votre projet personnel. Donc pour ça, vous pouvez regarder en détail votre agenda, essayer d'observer vos routines actuelles, qu'est-ce que vous faites le matin, qu'est-ce que vous faites le soir quand vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites au réveil, qu'est-ce que vous faites le midi. À ce moment-là, quand vous aurez bien observé ce que vous faites chaque jour, vous pouvez vous demander à quel moment de la journée vous êtes le plus productif. Est-ce que vous pensez que c'est plus le soir que vous pourriez être productif et travailler sur votre projet, par exemple ? Essayez de caler une demi-heure, par exemple, ou une heure chaque matin ou chaque soir pour le faire, et vraiment le faire de façon très répétitive, tous les jours. Le mieux, c'est de faire ce que vous souhaitez vraiment tous les jours. Après, ça arrive qu'il y ait des périodes où vraiment on s'en sort pas. Mais pour commencer, le mieux, c'est de s'y mettre tous les jours. À force de faire les choses régulièrement, tous les jours, ça va vraiment rentrer dans une routine et ça sera de plus en plus facile à faire. Parfois, vous aurez même plus besoin de réfléchir avant de vous y mettre parce que vous serez déjà habitué à le faire et vous aurez même plus l'impression d'avoir à faire des efforts pour le faire. Une astuce que j'ai souvent utilisée par période et que j'utilise en ce moment parce que ça m'aide vraiment beaucoup à avancer, surtout avec le bébé à la maison, c'est de me lever plus tôt le matin. Parce que personnellement, je suis plus productive le matin. Bien sûr, j'ai du mal à me réveiller. Quand le réveil sonne, c'est toujours difficile d'émerger. Mais par contre, une fois que je suis réveillée, vraiment, je suis beaucoup plus productive le matin que le soir. Parce que le soir, je suis fatiguée. L'après-midi aussi, je ne suis pas vraiment dans des conditions optimales pour créer. Donc, quand j'ai des gros projets, je me lève vraiment plus tôt le matin. À ce sujet, je vous conseille de lire le livre Miracle Morning de Hal Elrod. Donc, c'est un livre qui a été traduit en français. Mais vous allez sur Amazon, vous tapez Miracle Morning et vous verrez aussi la version française. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre parce qu'il pourrait vraiment changer votre vie. D'essayer de voir pourquoi se lever plus tôt le matin peut vraiment changer votre vie. Vous trouverez cette réponse dans ce livre et je suis sûre que vous aurez vraiment envie d'essayer. Personnellement, quand je me lève plus tôt, c'est magique parce qu'il n'y a pas un bruit, il n'y a personne qui est réveillé, même les enfants dorment et c'est vraiment le seul moment de la journée où je peux passer au moins 1 heure d'affilée à faire ce que j'aime, donc dessiner. Donc je dessine pendant 1 heure non-stop et vraiment ça m'apporte énormément et ça change totalement mes journées. Même si après j'ai une journée vraiment chargée dans d'autres domaines, au moins je sais que j'ai eu ce moment pour moi pour avancer sur mon chemin créatif. L'astuce numéro 5, c'est de fractionner ses tâches. Donc, si vraiment c'est impossible pour vous de vous lever plus tôt, par exemple si vous avez un travail qui vous demande déjà de vous réveiller à 4h ou 5h du matin, je comprendrais que ça serait difficile de mettre son réveil à 3h pour dessiner. Ce que je vous propose, c'est de fractionner vos tâches, donc de travailler par exemple par tranches de 15 à 30 minutes dans la journée. Vous évaluez les moments de calme que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous avez 1 heure pour déjeuner, rien ne vous empêche de prendre 3 quarts d'heure pour déjeuner et puis à la fin, pour vous détendre, commencer un projet en prenant 15 minutes. Vraiment, on ne se rend pas compte, mais 15 minutes, c'est vraiment long pour créer. On a l'impression que ce n'est pas grand-chose et qu'on ne pourra pas avancer. J'ai participé à un challenge l'année dernière de 15 minutes d'aquarelle par jour. J'ai fait ça pendant un mois. Et à la fin du mois, j'ai vu tout ce que j'avais produit et je me suis rendu compte qu'en 15 minutes, on pouvait vraiment faire quelque chose d'intéressant et avancer. D'ailleurs, j'en ai parlé sur le blog dans un article qui s'appelle 15 minutes d'aquarelle par jour, il me semble, si vous voulez retrouver cet article sur le blog. Alors, l'astuce numéro 6 que je vous conseille, c'est de faire une seule chose à la fois. Je vais reprendre mon exemple de 15 minutes de travail. En fait, parfois, on ne voit pas le temps passer parce qu'on fait vraiment plusieurs choses à la fois. Soit il y a la télé qui fonctionne ou on est en train de regarder son téléphone en même temps, ou alors il y a une notification, un SMS qu'on reçoit et donc on pense qu'on a travaillé 15 minutes, qu'on n'a pas réussi à avancer alors que tout simplement on n'était pas vraiment présent dans ce qu'on faisait. Donc vraiment de se concentrer sur une seule chose à la fois, on est totalement présent et comme ça on peut être vraiment beaucoup plus efficace que si on se laissait distraire tout le temps par plein d'autres choses. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous concentrer à fond sur ce que vous faites, d'éteindre votre téléphone portable par exemple, ou le mettre en mode avion, ou de stopper les notifications, parce que tout ça c'est plusieurs secondes dans la journée qui deviennent des minutes et des heures, qui font que souvent la journée passe et on se rend compte qu'on n'a pas fait grand chose et on ne sait même pas pourquoi au final. Et aussi, n'hésitez pas à vous isoler quand vous avez décidé de créer. Pour vraiment, après, selon les moments de la journée, c'est pas facile. C'est vrai que j'aime bien aussi créer quand il y a du monde autour de moi, par exemple avec les enfants à côté, parce que c'est une autre façon aussi de fonctionner. Mais s'isoler, ça aide grandement à faire une seule chose à la fois et vraiment profiter à fond du temps qu'on s'est donné. Donc l'astuce numéro 7, une astuce très 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 utile, c'est de faire le vide dans son quotidien. Donc vous avez évalué vos objectifs, vous avez compris pourquoi c'est important pour vous de créer. Donc c'est important maintenant de vous créer de l'espace pour vous exprimer et faire ce qui est important pour vous. Donc encore une fois, je vous invite à observer votre quotidien et voir vraiment qu'est-ce qui vous bouffe de l'énergie, qu'est-ce qui ne vous apporte rien et qu'est-ce que vous pouvez supprimer, qui vous prend du temps. Parce que souvent, par exemple, moi aussi ça m'arrive, j'ai eu des périodes dans ma vie où je disais que j'ai le temps de rien faire, mais en même temps je passais 2 ou 3 heures le soir à regarder la télé. Et au final, c'était même pas forcément des émissions qui m'intéressaient ou qui changeaient quelque chose à ma vie, c'est juste que j'avais cette habitude-là d'être tout le temps devant la télé le soir quand j'étais plus jeune. Et au final, ça me prenait beaucoup de temps. Et j'étais fatiguée parce que du coup je me couchais tard et j'avais moins d'énergie pour faire ce qui est important pour moi dans la vie et dans la journée. Donc je vous invite à faire une liste de tout ce qui vous bouffe de l'énergie et du temps. Donc j'ai pris l'exemple de la télé, mais ça peut aussi être par exemple les réseaux sociaux ou des relations qui vous prennent de l'énergie, des personnes qui vous appellent régulièrement et qui au final vous bouffent de l'énergie, vous empêchent d'être positive. Donc ça peut aussi être très utile de faire un peu le tri dans tout ça, arrêter de se laisser bouffer par tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Donc l'astuce numéro 8, une astuce très importante aussi et très utile, c'est de faire le tri dans son matériel créatif. Donc souvent quand on a l'âme créative, on a tendance à avoir à amasser très vite vraiment pas mal de matériel parce qu'on veut tester tout ce qu'on découvre, on a plein d'idées, donc parfois même on se retrouve à acheter des choses qu'au final on n'utilise jamais parce que vu qu'on ne trouve pas le temps de créer, on a finalement des choses qu'on n'utilise pas. Donc je vous invite à faire vraiment le tri dans votre matériel créatif pour simplifier au maximum. Parce que plus on a de matériel, plus on a de choses et plus on a tendance à se sentir brouillé. Donc on ne sait pas vraiment par où commencer. On a tellement de choses en fait qu'on ne sait plus par où commencer. Donc je vous invite vraiment à faire le gros tri dans votre matériel créatif. Souvent aussi on se dit qu'il y a des choses qui nous serviront plus tard. Si ça ne nous sert pas maintenant, ça nous servira par la suite. Ce qui fait qu'on accumule, on accumule et on se débarrasse jamais de tout ce qui est créatif. Donc pour faciliter le tri, ce que je vous conseille, c'est déjà de trier en fonction de la qualité de votre matériel. Donc par exemple, tout ce qui est de qualité médiocre, qui n'est pas si bien mais que vous gardez quand même parce que ça peut servir, je vous conseille de le donner. Vous pouvez le donner, il y a plein de gens, je suis sûre que vous pouvez trouver autour de vous quelqu'un qui a envie d'essayer justement, qui n'a pas encore testé certaines choses et qui pourra, grâce à votre matériel, tester avant d'investir vraiment. Mais si vous avez déjà investi dans des choses vraiment de très bonne qualité, je vous invite à ne garder que ce matériel-là, que la meilleure qualité possible. Comme ça, déjà, vous n'aurez dans votre espace que des choses très belles que vous aurez vraiment envie d'utiliser. Donc la deuxième chose à prendre en compte quand vous faites le tri de votre matériel créatif, c'est aussi de garder uniquement ce qui sert à votre but principal. On en revient à l'astuce 1 dont je vous ai parlé, qui était de clarifier son objectif, savoir pourquoi on fait ce qu'on fait et qu'est-ce que vous avez envie de faire à court terme, à moyen terme ou à plus long terme. Et vraiment ne garder que ce qui sert à ça, à cet objectif que vous avez absolument envie d'atteindre. Et donc tout ce qui ne sert pas cet objectif, essayez vraiment soit de donner ou de revendre. Ou alors si vraiment vous ne voulez pas donner ni revendre, ce que vous pouvez faire c'est mettre tout ce qui ne sert pas votre but principal dans un carton. Vous prenez un petit carton ou une boîte selon le volume que vous avez et vous y mettez vraiment toutes les choses que vous avez quand même envie de garder mais qui ne vont pas vous servir dans votre objectif premier. Donc ces choses-là, vous les gardez dans un carton et vous allez voir, par exemple, au bout de 6 mois ou 1 an, si vous n'avez jamais eu aucune envie de rouvrir ce carton, ça veut dire que vraiment, vous pouvez vous en débarrasser. L'astuce numéro 9 que je vous propose d'utiliser, c'est de participer à des challenges en ligne. Il existe vraiment beaucoup de challenges en fonction des centres d'intérêt. Donc par exemple, si vous faites du dessin, il y a pas mal de challenges qu'on peut trouver sur Instagram ou dans des groupes Facebook ou même sur des blogs, des challenges où vous aurez par exemple un thème par jour pour dessiner. Ça vous permettra de trouver des idées régulièrement pour vous exercer. Parce que souvent on a envie de créer, mais on ne sait pas par où commencer, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment d'idées. Et donc d'utiliser par exemple des thèmes de challenge récurrents que vous voyez sur les réseaux sociaux ou sur les blogs, ça peut vous permettre déjà de faire le premier pas pour créer. Et après, une fois que vous êtes lancé, très souvent, vous verrez que vous suivrez même pas forcément le thème qui vous avait été donné parce qu'en travaillant dessus, vous aurez eu d'autres idées et c'est ces autres idées-là que vous continuerez à exploiter. Donc les challenges en ligne, c'est très très bien pour se booster et aussi pour rencontrer des personnes qui nous ressemblent. Donc les autres personnes qui participent au même challenge, souvent elles ont les mêmes envies que nous et donc elles nous inspirent et c'est toujours très enrichissant d'échanger avec elles parce que souvent dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément des gens aussi créatifs que nous autour de nous, dans le cercle familial ou les amis. Donc c'est pour ça que c'est très utile aussi de participer à ce type de challenge. Et donc pour information, si vous ne connaissez pas encore mon blog, j'anime un challenge dans un groupe Facebook qui s'appelle le challenge Art Journal et Gribouillage. Donc si vous faites de l'art journal ou si vous avez envie de vous lancer, vous pouvez rejoindre ce groupe sur Facebook. Donc la suite logique de tout ça, ce serait de s'inscrire également à un cours dans sa commune. En général, dans toutes les communes, il y a toujours des cours créatifs ou des cours d'art. Ça peut être du dessin, de l'aquarelle. Parfois même, il y a des cours de crochet, de tissage. Enfin, on trouve plein de choses dans les communes, souvent par le forum des associations, donc à des prix intéressants en plus. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'inscrire à ce type de cours parce que ça permet vraiment d'échanger, de discuter, d'apprendre en direct et de voir les autres faire aussi en direct, donc c'est toujours très stimulant. Je sais que personnellement, chaque fois que j'ai l'occasion aussi, je m'inscris à des cours. Cette année, j'ai suivi des cours de dessin avec une prof qui était super, qui donnait plein d'astuces. Et au final, c'était un échange parce qu'on apprend et puis la personne aussi qui donne les cours apprend elle-même. Donc, c'est des échanges très, très stimulants et positifs. Et je conseille ça parce que même si on a un très bon niveau, je considère qu'on finit jamais d'apprendre en fait. On apprend toujours, toujours et très souvent les personnes qui nous forment nous diront qu'elles apprennent également en même temps. Je sais que moi aussi c'est ce que je ressens quand j'anime un atelier. Je ressens que j'apprends des choses aux gens, j'apprends des techniques aux autres, mais aussi eux m'apprennent plein de choses par rapport à leur projet, par rapport à ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie de faire. C'est toujours très très stimulant des deux côtés, donc tout le monde y gagne en fait. Ensuite, l'astuce numéro 11, c'est de suivre des cours en ligne. C'est quelque chose qui se développe beaucoup en ce moment. Sur les blogs anglo-saxons notamment, on en voit vraiment énormément. Ça s'est beaucoup, beaucoup développé sur la blogosphère anglo-saxonne et ça vient également beaucoup en France. Je pense que c'est toujours très, très stimulant de suivre des cours en ligne parce que souvent, c'est un bon complément aux ateliers en direct qu'on peut prendre dans sa commune. En général, dans sa commune, on va trouver des cours, mais on ne va pas forcément forcément trouver exactement ce qu'on recherche et ce qu'on a envie d'apprendre. On va suivre un cours, mais il y aura toujours autre chose qu'on a envie d'apprendre et il n'y a pas toujours les professeurs qu'on veut autour de nous. Donc je pense que c'est un très bon complément d'aller aussi sur les ateliers en ligne qu'on peut trouver parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Vous pouvez trouver vraiment ce qui vous correspond, ce qui vous parle et avancer comme ça aussi. Et en général, c'est des ateliers auxquels on a accès tout le temps à n'importe quelle heure. Donc c'est parfait, vous n'avez pas besoin d'attendre l'heure précise de votre cours en direct pour travailler. Et donc ça peut être stimulant justement, on peut se booster à toute heure et on profite aussi d'une approche différente. Je sais que moi, je prends vraiment beaucoup, beaucoup de cours en ligne et ça depuis très longtemps. C'est rentré vraiment dans ma routine. Bon, ces derniers temps, c'était moins des cours créatifs parce que j'ai pas envie, depuis que j'ai lancé mes propres ateliers en ligne, j'ai pas envie d'être influencée par le travail des autres parce qu'on l'est toujours, donc j'ai vraiment envie de donner aux autres ce qui sort de moi totalement et d'apporter ma touche personnelle à tout. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal maintenant à prendre des ateliers en ligne de dessin ou d'art journal, mais j'en prends toujours dans d'autres domaines, notamment la création d'entreprises et ce type de choses parce que je suis en plein dedans. Mais voilà, depuis très longtemps, dès mes débuts, j'ai pris beaucoup de cours en ligne, notamment sur des blogs anglo-saxons. Et ce qui est bien avec les cours en ligne, c'est qu'on trouve vraiment plein de choses. Voilà, si on n'a pas forcément envie de payer, il y a pas mal de vidéos sur YouTube, par exemple, qu'on peut trouver gratuitement. Sur les blogs aussi, bah, même moi, je propose des ateliers découvertes gratuits sur mon blog. Et à côté de ça, quand on veut aller vraiment plus loin et pousser les choses plus loin, on peut aussi prendre des ateliers payants. C'est comme on veut et c'est comme on a envie d'évoluer, en fait. Mais dans tous les cas, c'est très stimulant. L'astuce numéro 12, c'est une astuce pour les personnes qui se mettent beaucoup la pression. J'échange beaucoup via mon blog avec des lectrices qui me disent qu'elles ont vraiment peur de faire les choses mal, peur de rater, peur de pas réussir à faire ce qu'elles veulent. Et donc, je pense que c'est très important de relâcher la pression. Au final, on fait ce qu'on fait tout d'abord pour nous. Après, si ça plaît à d'autres, très bien, tant mieux, mais c'est pas forcément le plus important, je dirais. Le plus important, c'est de profiter du processus et de se faire plaisir avant tout. Après, au pire, si ça nous plaît pas, qu'est-ce qui se passe? Au pire du pire, on le montre à personne, et voilà. Donc pour relâcher la pression, il y a pas mal d'outils qui existent. Par exemple, juste avant de créer, vous pouvez faire un peu de méditation. Vous pouvez vous faire une ambiance spéciale, une ambiance bienveillante en créant, en mettant de la musique douce, de la musique zen. Et comme ça, vous serez vraiment dans un état d'esprit plutôt positif et calme avant de créer. Il y a aussi une méthode qui s'appelle EFT en anglais. C'est une méthode de libération émotionnelle en stimulant des points d'acupuncture sur le corps à des points précis. Et c'est très très utile, c'est quelque chose que j'utilise également pour vraiment dépasser toutes les peurs qu'on peut avoir par rapport à la création. C'est vrai que j'ai moi aussi cette peur parfois de montrer mon travail parce que très souvent je me dis « Ah, c'est vraiment pas joli ce que j'ai fait ». On a tous quelque part parfois cette peur de ne pas réussir à faire ce qu'on aime ou peut-être d'être critiqué par les autres. Donc voilà, et toutes ces techniques-là, ça m'aide en fait à dépasser tout ça, à me dire qu'au pire du pire, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se dire « Ah, c'est pas beau ce qu'elle a fait ». Et puis voilà, ça arrive, c'est la vie. Les artistes sont toujours confrontés à ça, soit leur travail plaît, soit il plaît pas. Donc voilà, c'est la vie. Je pense qu'il faut pas forcément s'arrêter à ça, sinon après on fait plus rien. Donc essayez toutes ces techniques-là, notamment pour l'EFT, vous pouvez chercher sur YouTube, je pense qu'il y a des choses qui existent en français dessus. Il y a même des petits bouquins très faciles à lire sur Amazon à ce sujet. Donc voilà, si ça vous parle, vous pouvez essayer, mais il y a plein d'autres choses. Essayez ce qui fonctionne pour vous et profitez-en pour relâcher la pression et vous relaxer en créant. L'astuce numéro 13, c'est d'utiliser un minuteur. Ça, c'est vraiment magique. Quand j'ai participé l'année dernière au challenge de 15 minutes d'aquarelle par jour, vraiment le minuteur, c'était magique pour moi parce que ça m'empêchait de procrastiner. Donc, par exemple, je me levais un peu plus tôt le matin. Je me disais, là, c'est maintenant ou jamais, je lance mon minuteur. Et là, avec le minuteur en marche, je me sentais vraiment obligée d'y aller. Et donc, je commençais à dessiner et je le faisais et je voyais les minutes qui passaient. Je me disais, ah, il faut que j'avance, il faut que j'avance vite. C'est une façon de se forcer à s'y mettre. Après, une fois qu'on est dedans, parfois, on peut même passer beaucoup plus de 15 minutes parce qu'on est vraiment dedans, on est dans le plaisir de créer. Mais le minuteur, c'est vraiment quelque chose de très utile pour se donner le petit coup de boost dont on a besoin pour se lancer. Et aussi, je sais que quand je le faisais le matin, je me disais que j'avais vraiment intérêt à le faire là, pendant ces 15 minutes-là, parce que sinon après, les enfants allaient se réveiller et ça serait terminé, je ne pourrais plus rien faire. Donc comme ça, ça permet de se booster, de se lancer coûte que coûte. Et à ce sujet, vous pouvez vous renseigner sur la méthode Pomodoro. C'est une méthode de productivité. Quand on a des projets sur lesquels on a besoin de travailler, c'est très pratique, ça m'est arrivé d'utiliser ça. En fait, l'idée, c'est de régler son minuteur sur 25 minutes. Et donc de travailler non-stop sur ce qu'on a à faire pendant 25 minutes. Donc vraiment en se concentrant, en faisant rien d'autre. Et ensuite, on se prend 5 minutes de pause. Donc ça permet en fait d'être vraiment productif, d'être à fond dans ce qu'on fait. Donc c'est quelque chose de très utile si vous avez un gros projet que vous avez besoin de terminer. Ça permet d'avancer, de se donner des tranches de vrai travail pendant lesquelles on va vraiment être productif. Une autre astuce pour créer plus facilement et se lancer plus facilement, c'est de par exemple décider de créer uniquement avec deux outils, avec deux choses. Par exemple, si vous faites du dessin, de décider que demain vous allez faire un dessin uniquement avec un crayon de couleur et un feutre. Vous choisissez les couleurs à l'avance et vous vous dites, quoi qu'il arrive, ce que je vais faire là, ça va être uniquement avec mon crayon et mon feutre. Déjà, ça permet d'être plus créatif et en plus, en simplifiant comme ça, on se retrouve à avoir des nouvelles idées, des nouvelles choses qui peuvent sortir comme ça de nulle part. On se retrouve à avoir des nouvelles idées, de nouvelles choses qui peuvent sortir et nous donner plein d'idées. Donc si vous faites de l'art journal, vous pouvez décider par exemple de faire une page uniquement avec deux couleurs ou décider de coller des bouts de papier de deux couleurs uniquement. Après, vous pouvez varier les formes et les styles de papier, mais vous concentrez uniquement sur vos deux couleurs pour créer. Ça permet de se relâcher aussi, de relâcher la pression et d'être uniquement dans la créativité et pas dans les attentes de faire des choses belles ou de faire des choses parfaites. L'astuce numéro 15 que je vous propose, c'est de travailler sur des petits formats. Ça, c'est vraiment très très pratique parce que ça permet de faire des choses abouties, mais en peu de temps. Donc si vous avez envie d'évoluer, par exemple, dans une pratique donnée, comme l'année dernière, ce que j'avais fait, c'était sur l'aquarelle. Donc je m'étais découpé à l'avance des petits carrés de papier. Et j'avais décidé que tous les jours, j'allais faire mes aquarelles sur ces petits carrés de papier. Comme ça, ça ne prend pas trop de temps. Et on peut vraiment le faire tous les jours dans le cadre d'une routine sans avoir l'impression qu'on ne fait que ça. Donc c'est très très utile pour avancer vos projets. Donc de travailler sur des petits formats comme ça, ça vous permettra de mettre l'accent sur la pratique et d'obtenir des résultats beaucoup plus facilement et en moins de temps. Par exemple, j'ai déjà vu sur internet des challenges avec des post-it. C'est mon amie Renata, qui est coach en dessin, qui a lancé ce challenge, il me semble, il y a 1 ou 2 ans. Et donc, elle donnait un thème précis à chaque fois. Il fallait dessiner sur des post-it. J'avais pas pu participer à l'époque, mais j'avais trouvé que c'était une super idée vraiment pour pratiquer régulièrement et faire des jolies choses. Et en plus, quand on le fait, à la fin du mois, on se retrouve avec 30 dessins qu'on va avoir fait. Et on est vraiment fiers de soi parce qu'on voit qu'on a avancé. L'autre exemple, bien sûr, que je vais vous donner si vous suivez mon blog, c'est de faire du Zentangle. Donc le Zentangle, je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est une technique de dessin très relaxante, accessible à tous, même aux personnes qui n'ont jamais dessiné, qui permet de s'éclater sur des petits carrés de papier en faisant des jolis dessins, des jolis motifs répétitifs. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon blog. Et vous verrez à quel point cette méthode peut être addictive et vraiment relaxante. Une autre astuce qui aide vraiment beaucoup aussi quand on se sent bloqué au niveau créatif, c'est de varier les techniques, donc d'essayer régulièrement des nouvelles techniques qui vont nous permettre de tester, de faire des découvertes qui pourront peut-être débloquer quelque chose en nous. Donc sur mon blog, je parle par exemple régulièrement de l'art journal, des vertus de l'art journal, parce que avoir un carnet comme ça dans lequel on expérimente des nouvelles choses régulièrement, ça aide beaucoup à développer sa créativité et à se sentir moins bloqué. Donc par exemple, vous pouvez prendre un carnet et griffonner dedans avec un feutre spécial que vous aurez choisi. Vous pouvez faire plein de gribouillages, c'est pas interdit, c'est très drôle et ça permet de relâcher la pression tout simplement. Vous pouvez dessiner dans un vieux livre, voir le rendu, voir ce que ça donne avec de la couleur ou avec une seule couleur par exemple. Vous pouvez coller des bouts de papier, du tissu, des serviettes où vous souhaitez. Donc le fait de tester des nouvelles choses comme ça, d'essayer de travailler de nouvelles matières ou des nouveaux rendus, ça peut débloquer pas mal de choses si vous vous sentez bloqué créativement et que vous n'avez plus d'idées, que vous ne savez pas vraiment quoi faire. Alors une autre astuce que je pense peut être très utile, c'est de lire des livres audio. Pourquoi ? Parce que, par exemple, personnellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Et je connais beaucoup de gens, beaucoup de femmes comme moi qui adorent lire. Et donc, la lecture, ça leur prend vraiment beaucoup de temps. C'est un plaisir, ça stimule l'imagination et plein de choses. Donc j'adore lire. Et il y a quelques mois, j'ai découvert les livres audio. Et je me suis rendu compte que ça me permettait de gagner vraiment beaucoup de temps et donc de créer encore plus souvent. Pourquoi ? Parce qu'il m'arrive souvent quand je me lève le matin, plutôt que de mettre de la musique par exemple, de mettre un livre audio. Donc en même temps que je dessine, j'écoute mon livre sur mon téléphone portable et ça me permet de m'évader pendant que je dessine. Donc quelque part, ça fait relâcher la pression parce qu'on pense à autre chose pendant qu'on est en train de créer. Et aussi, ça me permet de continuer à nourrir ma curiosité. Donc je vous conseille de choisir des sujets qui vous inspirent pour votre livre audio. Pourquoi pas des romans par exemple ou des livres de développement personnel, c'est vous qui voyez. Si j'avais une recommandation à vous faire pour commencer, ça serait le livre « Libérez votre créativité » de Julia Cameron. Je l'avais acheté sur Audible. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Audible, c'est comme Amazon en fait, ça vous permet de commander des livres audio facilement. Et le tarif est assez intéressant parce que les livres audio sont beaucoup plus chers que les livres écrits. Et Audible propose un abonnement. Il me semble que c'était 9 euros par mois que je payais quand j'étais abonnée. Et en sachant qu'un livre audio coûte en moyenne 20 à 25 euros, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'en payant l'abonnement de 9 euros, on peut avoir accès à un livre par mois. Donc c'est une astuce comme ça que je vous donne. Je pense qu'il existe aussi pas mal de livres audio gratuits. Il y a des versions gratuites d'essais. Je pense que quand vous vous inscrivez pour la première fois sur Audible, vous avez droit à un livre gratuitement sans avoir payé. Donc ça vaut le coup d'essayer. On en trouve aussi sur iTunes des livres audio. Donc je vous conseille fortement, si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup lire, ça peut être une très bonne alternative parce que tout ce temps que vous passez à lire, vous pouvez à la fois écouter votre livre et en même temps dessiner ou faire d'autres choses. L'astuce 18, une astuce qui ne paraît pas si importante mais qui peut vraiment être une clé très très forte pour débloquer des choses et arriver enfin à être positive par rapport à votre propre travail, c'est de pratiquer la gratitude. Donc la gratitude, comment la pratiquer ? Un exemple que je vous donne, ça serait par exemple d'écrire quelque part tous les jours 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude dans votre journée. Ça peut être des choses très très simples, comme un plat que vous avez mangé aujourd'hui, que vous avez vraiment beaucoup apprécié, ou une tasse de thé que vous avez bu, un moment tout simple qui vraiment vous a apporté quelque chose et vous a fait vous sentir bien. Ça peut être des choses beaucoup plus concrètes, comme une bonne nouvelle que vous avez eue, ou votre voisin qui vous a amené des fruits, par exemple. Ça peut être plein de choses. Essayez comme ça d'écrire chaque jour 3 choses positives qui vous sont arrivées, pour lesquelles vous ressentez vraiment de la gratitude. De faire ça régulièrement, vraiment, ça permet de se concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Ça permet aussi de relativiser. Donc parfois, on se sent déprimé, on n'est pas bien, on se dit que ça va pas parce qu'on n'arrive pas à créer, on a peur, on se sent angoissé, mais à force de travailler comme ça sur des sensations de gratitude, ça permet de relativiser, de se rendre compte qu'au final, c'est pas si grave que ça. Tout ce qu'on ressent, c'est juste un état d'esprit. Et on peut choisir de se sentir bien et de se focaliser sur toutes ces belles choses de la vie auxquelles on a accès et qu'on a oublié de voir. Ça aide aussi à voir la beauté dans ses créations. Donc même si vous faites des choses que vous n'aimez pas ou que vous avez fait un dessin que vous trouvez vraiment très très moche, vous n'arrivez pas à voir de positif dedans, le fait d'être habitué à ressentir de la gratitude comme ça, ça peut vous aider à ce niveau-là parce que vous serez capable de voir qu'au final, c'est pas le résultat final de votre dessin qui compte, c'est vraiment le temps que vous avez pu passer, ce temps que vous vous êtes donné, ce moment de détente dont vous avez profité pour faire votre création. Au final, c'est ça qui est très important. Vous avez pris du temps pour vous, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, essayez plutôt de vous focaliser sur cet aspect-là des choses plutôt que de voir que le négatif, que ce qui ne va pas dans ce que vous faites. Parce qu'au final, dans la création, rien n'est jamais totalement parfait. Et sinon, pour continuer sur cette lancée et garder toujours l'envie de créer, vous pouvez faire l'expérience de vous dire que là, vous allez créer quelque chose de pas beau, de pas joli. Donc, en vous disant ça d'emblée, tout d'un coup, vous relâchez la pression automatiquement. Parce que forcément, vous vous dites que là, vous allez faire quelque chose de pas beau, de très très laid. Vous allez vous mettre vraiment sérieusement à faire quelque chose de pas beau. Et franchement, vous pourriez avoir de très très belles surprises. Pourquoi ? Parce que souvent, il n'y a plus vraiment de caractère dans ce qu'on veut faire parce qu'en voulant avoir des choses toujours très lisses, très belles, parfaites, au final, elles ne dégagent pas forcément d'émotion. Alors que d'essayer de travailler justement d'emblée de façon imparfaite, ça peut vous permettre vraiment d'avoir des résultats très très intéressants. Vous pourriez être vraiment surpris de ce que vous obtiendrez. Et enfin, la dernière astuce, je vous invite à, quoi qu'il advienne, aller toujours au bout de ce que vous commencez. Vraiment. Ça arrive que parfois on commence quelque chose et puis à un moment on a l'impression d'avoir raté. On se dit, là il y a un trait de travers, là ça va pas du tout, il y a une grosse tache, ça va pas. Mais vraiment, même si ça vous plaît pas, forcez-vous à terminer coûte que coûte. Parce que vous pourriez vraiment passer à côté de quelque chose de très très beau et intéressant. En fait, en général, on peut pas faire de découvertes si on se trompe pas. C'est pas possible. Donc au final, le fait de faire des erreurs, de se tromper, c'est plutôt une bénédiction. Parce que grâce à ça, vous pourrez faire des découvertes et vous renouveler. Donc vraiment très important, quand vous commencez quelque chose, je vous invite vraiment à aller au bout. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance, amusez-vous bien dans vos créations, prenez du plaisir, c'est très important de prendre soin de vous. Donc je vous donne rendez-vous sur le blog, vous pourrez y trouver tous mes derniers articles, je publie assez régulièrement, environ une à deux fois par semaine. Donc si vous avez des envies particulières ou des questions particulières concernant les futures formations ou les futures vidéos, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse giselle@jjhoop.fr. Je serai ravie d'échanger avec vous et pourquoi pas créer une formation sur mesure par rapport à vos besoins. Merci et à bientôt. Au revoir.